Laudetur Jesus Christus.
Donald Trump annonce ce mercredi un jour de libération. Le président américain doit annoncer ce soir les nouveaux droits de douane américains. Ils devraient toucher la plupart des pays. Certains produits des États-Unis pourraient être visés en retour, comme le bourbon. Reportage à suivre dans l'État du Kentucky. Les opérations de secours se poursuivent en Birmanie, où le séisme a fait plus de 2700 morts. Le centre du pays, très détruit, reste par ailleurs difficile d'accès. Nous entendrons le témoignage d'une enseignante qui vit près de la ville de Mandalay. Ce 2 avril est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Les autistes qui ne sont pas assez inclus dans la société, c'est le cas au Cameroun, où nous entendrons une maman qui se bat pour son fils. Et puis dans notre dossier ce matin, la mort du pape Jean-Paul II, c'était il y a tout juste 20 ans. Gros plan ce matin sur l'un de ses héritages les plus marquants, les Journées mondiales de la jeunesse.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, nous sommes le 2 avril et le président américain a promis que ce mercredi serait un jour de libération. C'est ce soir en effet que Donald Trump doit annoncer de nouveaux droits de douane qui devraient toucher toute l'économie mondiale. De nombreux pays ont anticipé ces nouvelles taxes, comme le Canada ou les membres de l'Union européenne, qui ont promis de riposter en taxant des produits américains. Les bouteilles de bourbon, par exemple, le whisky local, sont déjà retirées de certains rayonnages. Un boycott qui inquiète les producteurs de l'État du Kentucky. Le reportage d'Edouard Maïl.
Après les cuves et les tuyaux, le bourbon est presque fini. Reste plus qu'à vieillir dans un fût en chêne. Et à l'automne dernier, la petite distillerie Boundary Oak a exporté pour la première fois son whisky en Lituanie, avec l'espoir de continuer en France, en Allemagne ou en Pologne. Mais c'était avant la guerre commerciale. Brent Goodin est le propriétaire.
All of our distributors, including our one in France, just
tous nos distributeurs, y compris en France, nous ont dit qu'ils allaient attendre de voir ce qu'il se passe avec les droits de douane avant de continuer. Vu que l'Europe était un nouveau marché, cela n'a pas eu de conséquences importantes pour nous, mais on le souhaitait beaucoup. C'est surtout décevant.
95% de la production mondiale de bourbon provient du Kentucky, une immense industrie pour l'économie locale.
Évidemment, les plus grandes distilleries, celles qui sont présentes en Europe depuis longtemps, c'est dévastateur pour elles.
Mais malgré cela, l'électeur républicain ne doute pas du président.
Je sais que c'est un président très compétent et je suis sûr que tout cela va déboucher sur quelque chose de positif. C'est un formidable businessman.
Chose rare, des élus démocrates comme républicains du Kentucky ont exprimé les mêmes inquiétudes pour l'économie de leur État. À Radcliffe, dans le Kentucky, Edouard Maï pour Radio Vatican.
Le président argentin Javier Milei est lui attendu aux États-Unis ce mercredi. Il devrait être reçu par Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Les deux présidents qui doivent recevoir un prix récompensant leurs valeurs de liberté et de conservatisme. C'est ce qu'a expliqué hier le ministre argentin des Affaires étrangères. En Birmanie, le dernier bilan du séisme est d'au moins 2700 morts. Dans les opérations de secours jaillissent néanmoins quelques lueurs d'espoir, comme la nuit dernière où un homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé vivant sous les décombres par les pompiers dans la capitale, Naypyidaw. Le centre de la Birmanie, particulièrement détruit, des centaines de personnes sont encore portées disparues et l'accès de certaines zones reste très difficile. C'est le cas près de Mandalay où vit cette professeure.
Dans la périphérie de Mandalay, il y a un endroit appelé Amarapura et à proximité, le village de Fon'o, qui est une importante communauté musulmane. Il y avait 9 mosquées, dont 7 ont été entièrement détruites. Tous ceux qui priaient dans ces mosquées ont péri. Il y avait aussi des femmes qui priaient, car il y avait un centre de prière dédié aux femmes. Elles ont également péri. Les gens se concentrent sur Mandalay, mais de nombreuses zones restent sans aide. Par exemple, à Mingun, il n'y a pas de secouristes, hormis les locaux, et il n'y a pas de kapay, le moyen de paiement utilisé en Birmanie. Donc impossible de retirer de l'argent pour acheter à manger. D'autres villes ont subi de très lourds dégâts mais ne reçoivent aucune aide nationale ni internationale, comme Wandouin, Yamaetin, Tarsi, Piofuea et Pinmana. Ces villes ont un besoin urgent d'eau potable et de panneaux solaires.
Voilà une enseignante près de la ville de Mandalay, des propos recueillis sur place par l'ONG Info Birmanie. La junte militaire birmane qui annonce ce matin reprendre ses activités face aux rebelles, comprendre ses bombardements contre les groupes rebelles ethniques. L'église l'Église catholique birmane demande qu'un cessez-le-feu soit urgemment instauré dans le pays. De nouvelles manœuvres militaires chinoises d'ampleur au large de Taïwan. Pékin dit s'entraîner à des attaques de ports et d'infrastructures énergétiques. Des manœuvres qui comprennent des exercices de tir réels à longue portée. La Chine considère Taïwan, je vous le rappelle, comme étant sous sa souveraineté. Les États-Unis, principal soutien de Taipei, ont dénoncé hier des activités militaires et une rhétorique agressive chinoise qui mettent en danger la sécurité régionale et la prospérité du monde. Fin de citation. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, annonce une extension des opérations militaires dans la bande de Gaza. Il s'agit selon lui de s'emparer de larges zones de l'enclave palestinienne et toujours, selon ses mots, d'écraser et nettoyer la zone des terroristes. Ce matin, la défense civile gazaoui annonce la mort de 15 nouvelles personnes dans de nouvelles frappes israéliennes. Le grignotage israélien sur les terres palestiniennes qui se poursuit également du côté de la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967. Hier, c'est le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, l'une des voix suprémacistes d'extrême droite en Israël, qui a tenu à rappeler que l'État hébreu comptait bien s'y implanter toujours un peu plus. Les précisions à Tel Aviv de Julia Ganancia.
C'est en visite en Cisjordanie que le ministre des Finances a déclaré que le gouvernement israélien s'efforçait de développer les implantations en Judée-Samarie. Je cite, « La Judée et la Samarie sont le berceau de notre patrie, la terre de la Bible. Nous sommes là pour rester. » Fin de citation. Environ 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie aux côtés de près d'un demi-million d'Israéliens. Bezalel Smotrich ne cache pas son désir d'aller plus loin et de voir la Cisjordanie réunifiée avec Israël. Selon un rapport publié en mars par le commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2024, un total de 1779 structures palestiniennes ont été démolies en Cisjordanie. Ce chiffre est supérieur de près de 200% à celui de la même période en 2023. L'organisation indique que les démolitions ont été effectuées en raison, je cite, de l'absence de permis de construire. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Son combat est celui de milliers de parents à travers le monde, celui de la Camerounaise Jamila, une maman face à des années d'errance médicale que son courage porte à remuer ciel et terre pour son fils Yada. Il est âgé de 9 ans aujourd'hui et autiste. Sa mère se bat depuis sa naissance pour qu'il soit pris en charge et accompagné dans une société encore inadaptée à la différence. En ce 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, la jeune maman veut saisir l'opportunité de cette journée pour appeler à une véritable inclusion des personnes autistes au sein de la société. On l'écoute.
Les difficultés avec Yada se trouvent surtout au niveau de la communication et de l'alimentation. Aussi dans l'accompagnement au quotidien, parce qu'il faut tout lui apprendre. Il est autiste non-verbal. On essaye de s'armer de beaucoup de courage, d'avoir toujours le moral au beau fixe. C'est difficile pour un parent d'accepter de reprendre l'enfant à l'école parce que on ne peut pas garder l'enfant à l'école. Beaucoup de familles gardent les enfants autistes enfermés à la maison par manque de moyens. Il faut qu'il y ait davantage de centres de formation pour ces enfants autistes. L'État devrait vraiment revoir et créer beaucoup de centres de ce genre pour pouvoir aider les familles. Il faut essayer de donner une chance à tous ces enfants-là de s'intégrer dans la société. Ce sont des êtres humains, c'est juste un handicap.
Jamila, maman camerounaise d'un enfant autiste, interrogée par Augustine Asta. N'oublions pas Haïti où la situation sécuritaire se dégrade toujours. C'est le message de l'archevêque de Port-au-Prince qui alerte sur une situation qui empire en ces moments douloureux que traverse le pays et où persiste la violence des gangs dans la capitale haïtienne. Monseigneur Max Leroy-Mésidor s'adresse dans un communiqué à ses frères et sœurs de la vie consacrée de l'archidiocèse. Il décrit une réalité incroyable et leur exprime sa proximité et son soutien moral. Un message que vous pouvez retrouver sur notre site vaticannews.va. Et puis avant de passer à notre dossier, un mot de Lourdes où s'est ouverte hier l'assemblée de printemps de la conférence des évêques de France. Elle devrait élire ce soir son nouveau président qui succédera Mgr Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims. Hier, c'est le père Christophe Lesourd, le responsable des relations avec le judaïsme, qui a été élu secrétaire général de la conférence des évêques de France. Le 2 avril 2005, il y a 20 ans, jour pour jour, à 21h37, les cloches de Saint-Pierre retentissent, le monde retient son souffle, le deuil est pour la première fois planétaire. Jean-Paul II s'éteignait à l'âge de 84 ans, après 26 ans et demi de pontificat et une lente agonie. La nouvelle de la mort du pape polonais parvenait de Rome aux quatre coins du monde, par les moyens de télécommunication encore limités de l'époque. Peu après l'annonce, 130 000 personnes étaient déjà rassemblées spontanément place Saint-Pierre, en larmes et en prière. Recueillement total en Pologne, terre natale du souverain pontife, de tous les records, 129 pays visités, second plus long pontificat de l'histoire. Ce mercredi à 15h, une messe de commémoration ouverte à tous sera présidée dans la basilique Saint-Pierre par le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, suivi d'une veillée de prière sur la place en soirée. La mémoire et les souvenirs associés à l'ancien archevêque de Cracovie, devenu saint en avril 2014, sont toujours très vivants et féconds. En témoigne l'un des faits marquants de son pontificat que nous avons choisi d'explorer ce matin, la folle aventure des JMJ, prophétique et visionnaire. Elle nous est contée ce matin par Mgr Renato Boccardo. Il est l'archevêque de Spoleto Norcia. Il était chargé auprès de Jean-Paul II à la Curie d'organiser les JMJ de 1992 à 2001.
Ça a été l'une des caractéristiques fondamentales du pontificat de Jean-Paul II. Il avait dit, lors des journées mondiales, il y a une annonce explicite de Jésus-Christ, il y a la découverte de l'universalité de l'Église, on se sent part de ce grand peuple des croyants, et il y a une dimension missionnaire. Il terminait toujours les journées mondiales en disant aux jeunes, eh bien maintenant, en rentrant chez vous, racontez ce que vous avez vécu. Cela part, à mon avis, de la première homilie de Jean-Paul II en 1978, quand il a dit, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Christ. C'est la synthèse de son pontificat, ces quelques mots. Eh bien, une des réalisations de cette invitation, c'était les Journées mondiales de la jeunesse.
Pourquoi était-ce une initiative prophétique ? En quoi cette intuition manifeste-t-elle une Église déjà en sortie, épousant les signes des temps ?
On disait déjà des temps de Jean-Paul II que les jeunes s'éloignaient de plus en plus de l'Église. Il a voulu sortir pour aller à la rencontre des jeunes. Et on a vu que les jeunes attendaient, probablement, ils ne le savaient pas, mais ils attendaient quelque chose de semblable. Et ils ont répondu. Quelqu'un a parlé de la génération Jean-Paul II. C'est peut-être trop. Mais en tout cas, la présence du pape, son message, la proximité qu'il a exercée vis-à-vis du monde de la jeunesse a suscité un intérêt et même une réponse. Moi, personnellement, j'étais témoin de plusieurs choix de vie, c'est-à-dire des jeunes qui ont décidé se sont décidés pour le mariage, pour le sacerdoce, pour la vie consacrée. Et donc, l'idée du pape, c'était de poser des questions. Eh bien, il y a eu des réponses. Et les jeunes ont toujours manifesté leur désir de se rencontrer, de se connaître, évidemment, et même de faire une expérience d'universalité. On est parfois renfermé un peu dans son petit monde. Et nous savons comment les jeunes rêvent de quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus exigeant même. Et donc, le pape a interprété un besoin et une demande.
Quelle relation entretenait Jean-Paul II avec la jeunesse ? Quel était son rapport personnel aux jeunes ?
Je vous raconte un petit passage. Lors de la journée mondiale de Denver, aux États-Unis, en 93, le pape arrive, il y avait la grande fête de l'accueil dans un grand stade. Et le pape montait l'escalier pour rejoindre le podium. À certains moments, il s'arrête et il regarde intensément cette foule de jeunes qui chantaient, qui applaudissaient, etc. Et on a vu le pape très, très ému. Et les grands écrans retransmettaient donc le premier plan du pape et on voyait qu'il avait les larmes aux yeux. Le lendemain, les journaux américains racontaient l'arrivée du pape, etc. Et un jeune américain qui avait été interviewé, il dit « J'ai vu le pape les larmes aux yeux. Michael Jackson n'a jamais pleuré pour moi. » Je pense que c'est ça. Les jeunes ont perçu qu'ils étaient importants pour le pape. Que le pape les aimait, le pape leur faisait confiance. Et c'est ça qui les a touchés.
La prochaine édition aura lieu à Séoul, en Corée. Qu'aurait pensé, selon vous, Jean-Paul II, de ce choix ? Vous qui avez vécu ensemble les gigantesques JMJ de Manille en 95, les premières de l'histoire en Asie.
Eh bien, Jean-Paul II, lors des Journées mondiales de Manille, justement, avait dit « le continent d'Asie et le continent du troisième millénaire. Si le christianisme s'est développé pendant le deuxième millénaire en Europe, en Afrique, etc., le troisième millénaire sera l'Asie. Alors pourquoi ne pas voir un lien entre Manille et Séoul ? Avec la même intuition, la même perception. L'Asie, c'est peut-être le continent du futur. Et donc, se rendre au cœur de l'Asie pour annoncer le Christ est mort et ressuscité. Je pense aussi au voyage de Paul VI en Asie. C'était une première. Qu'est-ce que Paul VI avait dit lors de sa présence juste justement à Manille. Je suis venu vous annoncer le Christ qui est la vie du monde. Donc il y a une attention qui se renouvelle, un geste de confiance. L'Asie peut être vraiment le continent chrétien du troisième millénaire.
Interrogé par Delphine Allaire, Monseigneur Renato Boccardo était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous, ce sera à 13h en direct de Rome. Excellente journée à tous.